Tu y as pêché baobab acajou.
Dur de la feuille.
Baobab acajou. Tu y as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron cyprès, pin tes landes palissandres, mes lèzes tremblent être noyés.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou, la série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Janvier 2026. Synthèse des incendies issus du système européen d'information sur les feux de forêt en 2025 et hommage aux défenseurs des forêts qui nous ont quittés il y a peu. Qu'est-ce que ce système européen d'information sur les feux de forêt? Quel est son objectif et son histoire en Europe? Si les forêts ont toujours brûlé, quelles sont les tendances d'évolution de ces feux de forêt depuis les premières observations en 2003? Quand les forêts disparaissent, il suffit parfois d'une seule personne pour inverser la tendance. Comment y parvenir? À travers les récits de vie de deux personnes passionnées. Le Centre commun de recherche de la Commission européenne a créé en 1998 un groupe de recherche dédié au développement et à la mise en œuvre des méthodes avancées d'évaluation du risque incendie de forêt et de cartographie des zones brûlées à l'échelle européenne. Également en 1998, s'est tenue la première réunion du groupe d'experts sur les incendies de forêt des États membres. Ce groupe avait pour mission de conseiller sur l'élaboration des méthodes d'évaluation des risques incendies envisagés. Ces activités ont abouti à la création du Système européen d'information sur les incendies de forêt, EFIS. Opérationnel depuis 2000. Et depuis 2015, l'EFIS fait partie du programme Copernicus de l'Union européenne au sein du service de gestion des urgences. Depuis peu, un accord a été conclu afin d'étendre le système à tous les pays méditerranéens non membres de l'Union européenne. Les incendies ont déjà ravagé plus d'un million d'hectares dans l'Union européenne en 2005. Une superficie record, plus grande que la Corse. En France, 35 600 hectares de forêt ont été réduits en cendres, notamment dans l'Aude. Cette année bat le dernier record de 2017, où quelque 988 000 hectares de forêt étaient partis en fumée, non plus de la moitié au Portugal, pays notamment très cultivateur de l'eucalyptus. Quatre pays de l'Union européenne ont cette année battu leur record annuel depuis le début des relevés en 2006. L'évolution des feux de forêt intègre une fréquence et une intensité plus élevées des feux. En France, sur les 36% de causes connues de ces incendies, on retrouve 1% issus de causes naturelles, notamment avec les éclairs, 10% d'incendies intentionnels et 25% d'incendies dus à la négligence. Depuis plusieurs années, ce système d'information sur les feux de forêt alerte de l'impact grandissant de nos activités humaines sur la densité et la fréquence des feux, tout en soulignant la convergence de ces activités avec les effets grandissants du dérèglement climatique. Ces catastrophes auraient de quoi paralyser tout effort, mais pourtant il y a encore quelques décennies, alors que la majorité des consciences barbotaient dans une nébuleuse de nouvelles technologies, loin de soupçonner les crises majeures du vivant qui étaient à l'œuvre, plusieurs effrontés sortaient des rangs avec ferveur pour préserver les forêts. Anita Studer fut l'une d'entre eux. La première fois qu'Anita est arrivée au Brésil à la fin des années 1970, elle cherchait un oiseau qu'elle avait vu empailler à l'université de Nancy avec une étiquette mentionnant « espèce menacée d'extinction »,« Fazenda Riacho »,« Quebrolongo », »,« Alaguas ». Devenue son sujet de thèse, elle décida que la forêt qui abritait autrefois cet oiseau devienne le combat de toute une vie. Née dans une famille très pauvre à Brienz, dans le canton de Berne, en Suisse, elle a évolué dans un monde où rien n'était gagné d'avance. C'était une négociatrice infatigable, selon les dires de beaucoup de ses proches, n'avait peur de rien, ni des menaces de mort, ni d'aller à Brasilia pour convaincre les politiciens. Elle parlait de la même manière à tout le monde, les agriculteurs qui réclamaient des terres, les maires soucieux d'électeurs, les chercheurs, les ONG ou les bailleurs de fonds européens. Avec sa détermination, elle a obtenu le soutien de plusieurs ministères brésiliens et la collaboration de l'ICM Bio, l'Institut fédéral chargé des réserves biologiques. Mais ses débuts furent semés de méfiance de la population locale. Beaucoup la voyaient comme une Suissesse venue donner des leçons. Elle disait toujours « Ce n'est pas avec mon petit oiseau que je vais influencer les gens, c'est avec l'eau. » Et elle y est parvenue. En 1985, elle a fondé Nordesta. Et en 1989, la forêt Pedra Talada est devenue réserve biologique fédérale, le niveau de protection le plus élevé au Brésil. Et en 1990, elle a reçu le prix Rolex pour l'entreprise, ce qui lui a permis de continuer à développer le projet et de créer sa première pépinière professionnelle. Elle enseignait que pour planter une forêt, il ne faut pas faire une monoculture, il faut au moins 50 espèces d'arbres différentes, ou mieux, une centaine. Elle répétait aussi, on ne sauve pas une forêt tout seul, il faut que ce soit la forêt des gens, une fierté locale. Et elle aimait toucher les gens et changer des vies à travers des projets durables, éducatifs, économiques, mais aussi affectifs. Aimer sa forêt. Depuis 3 ans, son fils fait partie de la direction de Nordesta pour limiter la fragilité qu'il y avait à dépendre d'une seule personne, Anita, pour la collecte de fonds. Si quelque chose lui arrivait, Nordesta s'arrêtait. Avant sa disparition, cette fin d'année 2025, il y aura eu la mise en place de plusieurs partenariats au Brésil, avec les municipalités, l'État d'Alagoas et le gouvernement fédéral, en dessinant un modèle de durabilité, du tourisme scientifique et écologique, et un grand projet avec les abeilles natives, les Mélipones, depuis peu reconnues avec un statut de personne morale. Aujourd'hui, Nordesta travaille sur 3 axes. Premièrement, le reboisement et la revitalisation des sources. Ainsi ont été cartographiées avec l'IBAMA et l'ICM Bio les zones dégradées pour relier les fragments isolés. Le 2e axe, c'est l'éducation environnementale. Anita répétait souvent « Sans éducation, planter des arbres ne sert à rien ». Le programme principal s'appelle « Avocat de la nature » et implique une 50aine d'enfants. L'idée serait d'en faire une caravane éducative à travers Alagoas et d'autres états du Brésil. Le 3e axe, c'est l'agriculture familiale biologique. Quand la réserve a été créée, les habitants ont dû partir. Beaucoup d'entre eux étaient de petits agriculteurs. Nordesta a acheté une terre à Quebrangulo. Pour servir d'exemple, l'organisation y a planté des arbres, divisé les lots pour 50 familles, la terre est prêtée à vie, à condition de ne pas utiliser de pesticides et de diversifier la production. Un projet de serre biologique a aussi été lancé. Au Brésil, les produits biologiques sont rares et ceux qu'on trouve viennent d'autres états. Ce n'est pas durable. Les serres permettent une production annuelle, améliorant la santé et les revenus des familles. Aujourd'hui, il n'y a plus de chasseurs à Pedra Talada, ni d'arbres coupés. Quebrangulo est devenu un pôle de tourisme rural et écologique grâce à la forêt et à l'eau. La réserve aujourd'hui protège 169 sources qui alimentent plus de 300 000 personnes. Elle disait « En travaillant, on accomplit beaucoup et croyait à la responsabilité locale. Un jour, pendant une présentation de son travail à Genève, quelqu'un lui a dit « Votre travail est une goutte d'eau dans l'océan. » Sa réponse « Nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe dans le monde, mais des lieux par lesquels nous passons. » Impossible de vous parler d'Anita Studer sans parler de Francis Allais. Le botaniste dendrologue qui étudiait les arbres, Francis Allais était aussi biologiste. Il a enseigné longtemps à l'Institut de botanique de l'Université de Montpellier. C'est après avoir mené des études de zoologie qu'il est venu à la botanique et ce premier regard sur la zoologie l'a conduit à faire d'intéressantes comparaisons entre le règne animal et le règne végétal.
Attendez, je vais me permettre une métaphore musicale. Imaginez un énorme orchestre superbe qui joue sous l'équateur. Alors quand vous êtes sous l'équateur, vous êtes aux premières loges, vous en profitez pleinement. C'est la faune et la flore. Et puis ici, en prêtant l'oreille, vous entendez du côté du sud un écho très très assourdi. C'est ça qu'on a comme flore et comme faune ici, c'est trois fois rien. Alors c'est sympathique, j'aime bien les plantes d'ici. Mais il faut les comprendre comme des émanations très lointaines d'une énorme origine équatoriale. C'est pour ça que ces pays-là m'intéressent.
Avec les expéditions du radeau des cimes, il a littéralement inventé avec deux autres scientifiques une manière de pénétrer la forêt par le haut, sans la détruire, révélant un foisonnement d'espèces, de symbioses, de lenteurs et de stratégies évolutives dont nous ignorions presque tout. Le principe est d'observer la cime des arbres de la forêt primaire par le haut, à l'aide d'une plateforme légère de 300 ou 600 mètres carrés. Cette structure de forme hexagonale est déposée au-dessus des arbres à l'aide d'un ballon dirigeable à air chaud. Ce radeau sert à la fois de laboratoire et de lieu de vie pour les scientifiques. Il est constitué d'un assemblage de pontons reliés par un filet. L'intérêt est que la grande majorité des formes de vie végétale et animale se trouve au sommet, dans la canopée, et ne peut être observée depuis le sol. Ces expéditions ont permis de décrire de nombreuses espèces jusqu'alors inconnues, de prendre conscience de l'importance de la canopée dans la biodiversité. Une des découvertes de ces expéditions a été que les différentes branches maîtresses d'un grand arbre n'ont pas forcément le même génome. Francis Allais se désolait avec émotion de la destruction de ses forêts primaires, dont il dessinait sans relâche les détails, arbres, lianes, branches et fleurs. Je vous invite d'ailleurs à vous plonger dans l'un de ses ouvrages comme l'Atlas de botanique, poétique. Ces dernières années, il s'était donc engagé avec force pour la renaissance d'une grande forêt primaire en Europe de l'Ouest, convaincu que notre continent a aussi droit à un espace rendu au sauvage, hors logique de rendement. Il proposait de sanctuariser 70 000 hectares durant 800 ans. Une proposition jugée utopique pour certains, vitale par d'autres. L'association Francis Allais pour la forêt primaire, désormais reconnue d'intérêt général à vocation environnementale, a déjà réuni des centaines de collaborateurs et plus de 21 pays autour de ce projet, avant tout citoyens. Car oui, vous pouvez y contribuer à votre petite échelle. L'ancrage dans la canopée guidera notre prochaine escale avec un récit fantastique. Tendons amoureusement la feuille à ce récit venu du sous-bois.
L'enfant racine, écrit par Kitty Krauter. Cette histoire se passe dans une forêt immense et profonde. Curieusement, cette étendue d'arbres ne figure sur aucune carte. On ne sait pas où elle commence ni où elle se termine. Dans certains villages, on raconte que le bout du monde se trouve juste derrière cette forêt. Là, vit une femme, c'est Leslie. Depuis trois nuits, elle suit les traces d'un renard qui égorge ses poules. Elle ne sait pas encore que cela va changer sa vie du tout au tout. Leslie ne s'est jamais aventurée dans cette partie de la forêt. Ses pas glissent sur le sol, le dos courbé, elle garde les yeux fixés sur les empreintes du renard. Au loin, elle entend un bruit étrange. Le bruit provient de ce tunnel entouré de ronces. On dirait des pleurs. Les empreintes disparaissent dans l'obscurité. Leslie les suit. Elle se demande si les renards pleurent. Si Leslie connaissait les signes des fées, elle saurait, en voyant ce cercle de champignons, qu'elle vient d'entrer dans un monde différent du sien. Leslie pénètre dans le tunnel. Au fur et à mesure qu'elle avance, sa curiosité grandit. Ce tunnel n'a pas été creusé par des animaux. Sinon, il y aurait des traces de griffes. Or, ce qu'elle voit, ce sont des empreintes de mains, de minuscules petites mains, de la taille d'un morceau de sucre. À la sortie du tunnel, Leslie appelle. « Il y a quelqu'un ?» Un silence lourd lui répond. Elle n'a pas vraiment peur, mais elle se sent épiée. Et toujours ses pleurs, des pleurs d'enfant. Leslie en oublie le renard et, pour la première fois, elle sent battre son cœur de mère. S'il y a un enfant à sauver, elle le sauvera coûte que coûte. C'est alors qu'elle le voit, assis sur un rocher. Un être étrange sanglote. Il a la taille d'un petit enfant et ressemble à une racine. Leslie s'approche doucement, en fredonnant une chanson. Ce petit être lui dit qu'il a perdu ses parents. Leslie ne s'étonne pas qu'il parle la même langue qu'elle. « Ils sont morts ?» demande-t-elle. « Non, nous vivons dans la terre entre les racines, et quand il fait trop froid, nous sommes obligés de sortir une fois par jour pour ne pas rester prisonniers du sol gelé. Ce matin, lorsque je suis sortie, j'ai vu les fées qui dansaient. Je les ai regardées longtemps et, quand j'ai voulu rejoindre mes parents, ils n'étaient plus là. Et le petit être sanglote de plus belle. » Leslie prend délicatement l'enfant dans ses bras. Elle lui demande s'il est d'accord pour venir chez elle. « Oui, » hoquette l'enfant racine. C'est alors qu'une petite chose délicieuse s'approche d'elle en battant des ailes. Leslie n'a jamais vu de fées. Elles existent donc vraiment ?« Leslie, » dit la reine des fées, « nous t'avons autorisé à entrer ici. Mais sache que tu ne pourras jamais y revenir. Prends bien soin de cet enfant et de toi, » ajoute-t-elle en lui lançant une petite poignée de poudre dorée. Tandis que Leslie et l'enfant racine sont transportés loin du monde des fées, la reine Mab s'adresse au renard. « Tu lui as joué un drôle de tour en l'entraînant jusqu'ici. »« Je sais, » répond le renard. « Mais c'est un être redoutable. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen de m'en débarrasser. Pourquoi diable l'as-tu laissé repartir ?»« Renard, » dit gravement Mab. « Leslie est un peu des nôtres. » Leslie se réveille dans une partie de la forêt qu'elle connaît bien. Soudain, l'enfant racine s'agite. Elle n'a donc pas rêvé. « J'ai faim, j'ai froid !» dit-il d'une voix furieuse. Leslie l'emballe dans son manteau et l'emmène jusqu'à sa maison. Racine vit chez Leslie depuis un bon moment. Il n'est pas toujours commode, Leslie non plus d'ailleurs. Ils doivent s'apprivoiser l'un l'autre. Leslie trouve que Racine pose trop de questions. Elle déteste quand il lui demande « Pourquoi es-tu toujours seule ?» Racine adore jouer avec Leslie. À son avis, c'est la meilleure chose au monde. L'hiver est reparti avec son grand manteau blanc. Les jacinthes de bois ont sorti leurs robes violacées. Leslie embellit de jour en jour. Elle a confectionné des petits vêtements pour Racine. Il les trouve ridicules, mais il a fort envie de faire plaisir à Leslie. Racine déteste les plantes en pot et supporte encore moins les fleurs coupées. Comme dit un poète, cueillir une fleur, c'est éteindre une étoile. Une nuit, Racine grimpe sur le lit de Leslie et dit d'une petite voix étouffée. « Ils sont ici, je les sens. Ils viennent me chercher. » ajoute-t-il en faisant quelques pas de danse. Leslie a l'impression d'être dans un très mauvais rêve. Elle a envie de tout arrêter. Les pièces de la maison sont remplies de ces êtres étranges. Ce ne sont qu'effusions de joie et cris de retrouvailles. Leslie bascule dans une immense tristesse. Bientôt, l'enfant Racine va s'en aller et la laisser toute seule. Racine promet de revenir. « Chaque année !» souffle-t-il. « Mais non, tu vas m'oublier !» murmurait Leslie. Et en le serrant contre son cœur, Racine la regarde intensément, puis il disparaît dans les profondeurs de la terre. Leslie recouvre soigneusement les meubles de drap blanc, puis elle ferme la porte de sa maison. Elle a laissé le fusil accroché au-dessus de la cheminée, elle porte ses valises et marche d'un pas décidé. Elle part rejoindre les autres, ceux qui sont comme elle. Chaque année, Racine et Leslie se rencontrent sous un rayon de lune. Rien ne pourra t'interrompre cet étrange rituel, ni le mari de Leslie, ni ses enfants. Non, personne.
Racine, du latin radix, qui veut dire la base, la source, le fondement. Nos deux amoureux du vivant auront passé une vie à choyer ces fondements, à les mettre au devant des projecteurs, toutes feuilles azimutes. Un instant de contemplation suffit parfois à choper le virus. Paris a tenté l'expérience. sur notre territoire des Hauts-de-France. Il existe un jeune outil accessible pour les naturalistes débutants. Afin de partager vos observations de plantes et d'animaux, du moins ceux les plus facilement reconnaissables. Mis en place pour répondre au développement des sciences participatives, qui sollicitent votre contribution, on y retrouve des espèces sélectionnées dans les programmes d'enquête, laissant ainsi le moins de place aux confusions, permettant d'acquérir aussi, et surtout, de l'information scientifique fiable. Cet outil, Enquête Nature Hauts-de-France, dont le lien apparaît sur le podcast de cet épisode, ne nécessite pas d'inscription et mise sur la simplicité. Car connaître, c'est un premier pas pour ne plus détruire ce qui alimente nos esprits, nos corps et notre avenir. Les naturalistes plus aguerris s'orientent vers d'autres portails d'acquisition de données, disponibles et proposés de manière plus experte. Un pas après l'autre, l'idée fertile fait son chemin, arpentant des routes sinueuses, pour enfin aller se nicher dans un coin, où elle s'enracinera, gagnera des contrées, libérant une flopée de nouvelles histoires d'évolution de nos sociétés humaines. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une nouvelle feuille de chou, fraîchement cueillie.
Cyprès, pin des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.